Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, nous fêtons aujourd'hui notre Seigneur Christ Roi. Et c'est bien le moindre que je vous fasse un sermon sur cette grande fête qui tenait tant à cœur à Monseigneur Lefebvre et à nous-mêmes, bien sûr. Cela n'interrompra pas le cours des sermons sur la vertu, et vous allez voir pourquoi et comment. Cette fête fut instituée pour rappeler que notre Seigneur règne sur les cités, sur les sociétés, et pas seulement sur les individus. Normalement, il n'y aurait pas dû y avoir besoin d'une telle fête, car la royauté de notre Seigneur est fêtée avec splendeur lors de la fête de Noël. Nous chantons le roi qui entre dans ce monde. La royauté de notre Seigneur est encore fêtée durant la Semaine Sainte. Elle est fêtée pratiquement, on pourrait dire, à toutes les fêtes de notre Seigneur, car partout il règne. Cependant, vu les progrès de cette forme particulière d'athéisme ou de libéralisme qui voulait réduire la religion à la sphère privée, Pie XI a institué cette fête. Ce que j'ai constaté, c'est que elle peut être très bien comprise ou bien très mal. Elle peut être très bien comprise, c'est-à-dire que vraiment, elle nous incite non seulement à fêter notre Seigneur le Christ Roi, mais à nous mettre à son service pour que son règne arrive, comme nous le disons dans le Notre Père. Et elle peut être très mal comprise, c'est-à-dire rester un vœu pieux, sans qu'il y ait vraiment les conséquences que le pape attendait. Nous allons donc nous poser la question, comment Jésus-Christ règne-t-il sur les sociétés? Un des grands problèmes de notre époque, c'est qu'on ne sait plus ce qu'est une société. Et c'est pourquoi, justement, le règne de notre Seigneur, le règne social de notre Seigneur, reste un vœu pieux, parce qu'on ne sait plus ce qu'est une société. Aristote dit que toute amitié est une société, et toute société est une amitié. Nous avons déjà là un élément de réponse, puisque l'amitié dans la société chrétienne, c'est, je ne vous le fais pas dire, mes bien chers frères, la charité. Par conséquent, Jésus-Christ règne par la charité. Je ne vous fais pas l'injure de vous rappeler ce qu'est la charité, nous en avons parlé, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas d'abord l'amour du prochain, c'est d'abord l'amour de Dieu. Et cette charité unit des individus entre eux, dans l'amour de Dieu, ce qui fait que l'amour de Dieu devient commun à tous, c'est le même amour de Dieu qui est commun à tous ceux qui aiment Dieu, et c'est pourquoi on parle d'une société, ou d'un bien commun. La société se définit, comme je viens de vous le dire, par le bien commun, et voilà encore une chose qui est non seulement ignoré, mais hélas, très souvent faussé. C'est très surprenant. Lors du renouveau, de la redécouverte de l'importance de saint Thomas d'Aquin, la démocratie chrétienne était tellement forte chez les chrétiens que cette partie de la philosophie de saint Thomas ne les a pas intéressés, ils ne l'ont pas redécouverte, ou plutôt, ils l'ont complètement faussée. Vous avez des définitions du bien commun qui sont des définitions matérielles, vous avez une définition un peu mieux. Le bien commun, c'est les conditions pour la vertu, mais une condition ne peut pas être un bien commun. Ce qui est un bien commun, c'est la vertu. Et effectivement, le bien commun est un agir vertueux commun à plusieurs. Le bien commun dans la société, dans toute société, c'est la vertu des citoyens. Pour nous, dans la société chrétienne, et il ne peut y avoir que des sociétés chrétiennes, puisque notre Seigneur est venu pour tout le monde, notre Seigneur n'est pas facultatif, et ça c'est un des grands rappels de la fête du Christ roi. Notre Seigneur n'est pas facultatif. On peut étudier avec Aristote ce que serait une société autre que chrétienne, et c'est vrai d'ailleurs pour des sociétés autres que les cités, c'est parfaitement juste, ça s'appelle la philosophie. Malgré tout, la philosophie est toujours servante de la théologie, et les sociétés naturelles sont toujours servantes de l'Église et de la société chrétienne. Dans une société chrétienne, la grande préoccupation, ce qui unit les citoyens, ce qui unit les membres de la cité, c'est la vertu. Et par conséquent, c'est par la vertu de chacun, partagée avec les autres, que notre Seigneur règne. Et donc, vous voyez pourquoi l'importance des sermons que je vous fais sur la vertu. La vertu n'est pas seulement une chose individuelle, elle est une chose sociale. J'ai longtemps insisté sur la vertu de justice sociale, justement. Cette grande, belle vertu de justice qui nous met à notre place dans la société. Mais il y a une vertu supérieure à celle-là, qui s'appelle l'amitié. Aristote dit que l'amitié est une sur-vertu parce qu'elle est le principe de la vertu. Elle est l'amour du bien. Et vous savez, mes bien chers frères, que dans l'Église, l'amitié, c'est la charité. Il y a une sur-vertu, l'amitié, qui est l'amour de tout bien et qui va englober la pratique de toutes les vertus. La vertu de justice nous met à notre place dans la société. La vertu d'amitié, ou la sur-vertu d'amitié, fait de nous les membres de la société. Et il faut d'abord être membre de la société, après ça on se met à sa place. Parce que tous les membres de la société, quelle que soit leur place, aiment le bien commun, ils aiment la vertu qui est commune. Quand vous avez un professeur qui enseigne, il n'aime pas que son cours, il n'aime pas que ses élèves, il aime toute la société et il est fier de donner à la société des citoyens bien formés. Par la vertu de justice, il est à sa place, professeur, et non pas magistrat, et non pas président de la République, et non pas général. Par l'amitié, il est membre de la société et uni à tous les autres membres de la société. C'est capital, cela. Parce que si on n'a pas compris cela, le règne de notre Seigneur Jésus-Christ soit va rester un vœu pieux, soit va retomber dans une perfection individuelle. Notre Seigneur règne sur chacun d'entre nous sans que nous nous rendions compte que ce règne individuel n'est possible que dans le règne commun. Notre perfection, notre vertu individuelle n'est possible que dans l'amour d'amitié de nous tous dans la vertu. Une deuxième conséquence de cela, comment pouvons-nous agir, nous, pour le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ ? La première manière d'agir pour le règne social, je vous l'ai dite, c'est de développer en nous la vertu, parce que cette vertu nous unit, alors toutes les vertus théologales et morales, et toutes les vertus morales, parce que ces vertus, cet amour de la vertu qui se trouve dans toutes les vertus sont unies dans cet amour. Voilà ce qui nous unit à Dieu, et unissant tous les citoyens à Dieu, nous avons déjà le règne social. Mais il y a un deuxième élément, c'est que on ignore ce qu'est une société et on oublie, on ne sait plus ce que sont, on appelle ça les corps intermédiaires, c'est-à-dire la société est faite de sociétés et non pas d'individus. C'est à travers des sociétés intermédiaires que la cité unit les individus. J'espère que cela ne vous paraît pas trop compliqué, mais c'est un sujet capital. Et même si les choses ne vous paraissent pas claires cette première fois, petit à petit elles s'éclaireront et vous comprendrez de mieux en mieux ce dont il s'agit. À savoir que, c'est finalement relativement simple, nous ne pouvons pas avoir une amitié réelle avec 60 millions de Français, parce que ça nous dépasse, sauf si cette amitié est réalisée à travers des amitiés intermédiaires à taille humaine, réelles, réalistes, dans lesquelles les citoyens travaillent ensemble dans la même vertu, et tout cet ensemble fait la grande cité, la grande France. Je vais vous donner un exemple. Un professeur ne peut pas travailler pour le bien du pays s'il n'a pas une classe d'élèves qu'il connaît. Les professeurs ne sont pas interchangeables. S'il n'a pas une amitié pour ses collègues avec lesquels il travaille, et ainsi de suite. Et par conséquent, ce que nous pouvons faire pour la restauration de la France chrétienne, et s'il y a des Mexicains qui m'écoutent pour la restauration du Mexique chrétien, parce que je sais qu'il y a pas mal d'écoutes depuis l'étranger, si nous voulons refaire une France chrétienne et que nous voulons viser directement à la tête à refaire toute la France chrétienne, nous ne pourrons pas y arriver et nous deviendrons des démocrates chrétiens. Parce que la démocratie, elle a été faite pour démolir le règne du Christ roi en prétendant donner le royaume aux individus, la royauté aux individus, le pouvoir. Ce qui est faux, parce qu'elle ne leur a rien donné du tout. Et si nous voulons monter directement à la tête, alors nous faisons de l'individualisme. Nous avons cette société monstrueuse de 60 millions de citoyens qui sont tous à égalité, qui sont supposés être unis directement les uns avec les autres, ce qui est impossible. Et c'est cela un des aspects de la démocratie chrétienne, tandis que si nous sommes réalistes et que nous recréons des groupes d'amis chrétiens vivant dans la vertu, préoccupés de vivre entre eux dans la vertu, eh bien nous avons déjà commencé à recréer un élément du tissu social chrétien. Et si d'autres font la même chose, tout naturellement, ces divers groupements, qui ont chacun leur vie propre, seront unis, qu'ils se connaissent ou non d'ailleurs, seront unis dans le même idéal, et c'est ainsi que s'est faite la France chrétienne, c'est ainsi que se sont faits tous les pays, parce qu'il n'y a que cela qui soit naturel, le reste est artificiel. Et donc je vous invite, mes bien chers frères, à deux choses. La première, vivez profondément de la vertu. La deuxième, réunissez-vous à quelques amis, même peu nombreux, avec lesquels vous vivrez cet idéal, Et lorsque la Providence le permettra, cet idéal s'étendra à un plus grand nombre de corps intermédiaires, et ainsi se fera la belle grande société chrétienne. Ça a été le drame de l'absolutisme royal face au protestantisme. Vous avez eu, au XVIe siècle, le protestantisme qui a coupé la chrétienté en deux. Ça a été beaucoup plus visible en Allemagne qu'en France, mais en France, malgré tout, ça a été visible. Or, que sont les protestants ? Les protestants sont des gens qui se sont révoltés contre Dieu, parce qu'ils prétendent justifier le péché. Luther disait « le péché est inévitable, alors continuons à en pécher, parce que ça fait partie de la nature humaine. Mais Dieu est bon, il est miséricordieux, et il oubliera nos péchés, il les couvrira du manteau de Noé, que sont les mérites de Jésus-Christ. » Naturellement, les protestants, je ne parle pas de chaque individu en particulier, je ne voudrais pas, si un protestant m'écoute, qu'il se sente personnellement visé. Malgré tout, la secte protestante, la doctrine protestante, la pratique protestante, parce que c'est beaucoup plus une pratique qu'une doctrine, est une pratique qui, du coup, n'est plus tournée vers les choses élevées, elle était tournée vers les choses basses, vers les choses de la terre, et le protestant est naturellement tourné vers l'argent, préoccupé des gains d'argent. Vous avez donc en France deux types de citoyens. Vous avez les citoyens catholiques qui sont préoccupés de la vertu, même si quelques-uns sont mauvais catholiques, mais au moins la règle est posée, l'idéal est là, on peut s'en écarter, mais la règle demeure et l'idéal demeure. Ils sont tournés vers la vertu, cette vertu repose sur une certaine pauvreté, parce que c'est l'enseignement évangélique, oui, une certaine pauvreté, en tout cas un certain mépris des richesses, et de l'autre côté, vous avez une secte qui enseigne que les richesses sont des bénédictions de Dieu, qui est tournée vers les richesses, qui va s'émanciper de la loi naturelle, même naturelle, qui va créer le préintérêt, par exemple, qui est une manière de voler ses concitoyens, même de voler l'État. Le préintérêt permet à ceux qui prêtent de voler l'ensemble de leurs concitoyens. Je vous ferai un cours d'économie politique un autre jour, si vous voulez. On ne s'en rend pas compte, parce qu'au début, ça ne se voit pas trop, mais vous avez une fracture très profonde dans la société. Louis XIII est désemparé, il ne sait plus comment faire. Il consacre le royaume à Marie, mais cette consécration reste un vœu pieux, parce que les protestants ne sont pas convertis. Je ne voudrais pas évidemment faire le procès de Louis XIII, mais tous les bons historiens notent qu'il y a là un changement radical dans la société française. L'unité se fait autour du chef, parce qu'il commande, alors qu'autrefois elle se faisait autour de la vertu. Et on ne peut plus la faire autour de la vertu, puisque vous avez d'un côté des citoyens vertueux, de l'autre côté des citoyens vicieux, parce que c'est du vice que d'aimer l'argent. Du vice, ça s'appelle l'avarice. Il n'y a plus cette unité, on l'a fait autour du chef. Comme il n'y a plus la vertu, le commandement du chef va être arbitraire, ça va être une unité arbitraire. Et c'est comme cela qu'on arrive à cette notion si fausse du chef, dont on pense que c'est celui qui a le droit d'imposer sa volonté pour maintenir une unité. Petit à petit, cette notion du chef envahit toute la société, et puis elle pénètre dans l'Église. C'est la notion qu'on a même dans la fraternité Saint-Pie-X, le chef c'est celui qui a le droit d'imposer sa volonté. Monseigneur Felet avait le droit d'imposer sa volonté, pointez-vous. Que deviennent les sujets dans ce cas-là, les citoyens ou les prêtres dans une société religieuse? Ils deviennent de stricts obéissants, c'est-à-dire de stricts exécutants. On ne leur demande pas d'être vertueux. La seule vertu qu'on leur demande, c'est de bien obéir, de bien faire ce qui leur est demandé. Il n'y a plus d'amitié, il n'y a plus de charité. et la société complètement décomposée. Vous vous rendez bien compte, mes bien chers frères, et c'est cela que je voulais vous faire remarquer, que la piété personnelle ne suffit pas. Elle est absolument nécessaire, parce que c'est là-dessus que repose la société. Elle est absolument nécessaire, mais elle ne suffit pas. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas compris la fête du Christ-Roi, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est une société, parce qu'ils ne savent pas ce qu'est un chef. Ils ont admis que notre Seigneur Jésus-Christ régnait publiquement sur la société, mais ça reste, comme la consécration de la France à la Très Sainte Vierge, un vœu pieux. Bien sûr que Louis XIII a eu raison, mais il fallait que ça descende dans la pratique. Donc la Sainte Vierge va avoir une grande importance, mais à condition que nous demandions à la Sainte Vierge, d'une part, la sainteté personnelle de tous les membres pour unir les citoyens dans la charité, d'autre part, que nous demandions à la Sainte Vierge d'aider tous les membres à restaurer ce qu'est une véritable société chrétienne et non pas à plaquer une vie chrétienne sur une société artificielle. Mettez-vous au travail. Je viens de prêcher une retraite. Il y avait un malgache qui est venu providentiellement à la retraite, un jeune que je connais depuis un certain temps. Il a son diplôme, il a tout ce qu'il faut pour vivre en France, et il m'a dit « Monsieur l'abbé, je vais retourner dans mon pays, parce que mon devoir est de ne pas laisser tomber mon pays. Et il y a là-bas des institutions et un corps social qui est encore naturellement sain, et je vais travailler à le christianiser. De façon modeste, je vais dans les villages, dans quelques villages, travailler sur les pères de famille, sur les chefs de village, et les inciter à re-christianiser la vie de la famille, la vie du village. C'est une œuvre extraordinairement difficile, grandiose, enfin facile bien sûr avec la grâce, enfin c'est une entreprise extraordinaire, mais je l'ai encouragé à faire cela parce que malgré les dangers, il part tout seul et il n'aura pas le soutien de l'Église, pas le soutien des modernistes et puis pas non plus celui de la fraternité qui en plus n'est pas très présente là-bas, mais le danger serait encore plus grand en France. Danger de médiocrité, danger de libéralisme. Je pense que les chrétiens sont encore plus en danger en restant en France qu'en faisant ce que fait ce malgache. Bon courage à tous, surtout priez bien, cherchez à mettre en œuvre cette doctrine au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.